Bienvenue à l'écoute de la Radio du Monde, il est 3h à Paris, 2h en temps universel.
Antoine Galen.
À la une, le M23 prend possession de Walikale, un fief minier stratégique en République démocratique du Congo. C'est en tout cas ce qu'indique une source militaire congolaise. On fait le point dès le début de ce journal. Donald Trump veut démanteler le département de l'éducation. Nouvelle attaque du président américain contre les idées progressistes. Il dit vouloir renforcer le niveau national de l'éducation. Dans ce journal également, soulagement des familles et du ministère des Affaires étrangères après la libération de deux Français arbitrairement retenus en Iran. Vous l'entendrez. Et puis après les révélations des violences physiques et sexuelles de l'établissement de Bétaram, 8 collectifs de victimes de l'enseignement catholique ont été auditionnés ce jeudi devant les députés français. C'est une localité qui compte d'importants gisements d'or et d'étain. En République démocratique du Congo, l'agglomération de Walikale Centre est aux mains du M23. Et c'est ce qu'indique une source militaire congolaise. La semaine dernière, la société Alphamine, qui exploite la mine de Bissier, avait évacué son personnel et stoppé la production suite à l'avancée du groupe armé. Et bien ce mercredi, après des affrontements avec l'armée congolaise, les combattants du M23 soutenus par le Rwanda sont entrés dans cette cité au carrefour du Nord Kivu. Les précisions de Guillaume Thibault.
Affrontements dans les rues et tirs d'artillerie ont résonné durant de longues heures dans la ville ce mercredi. Et l'agglomération de Walikale Centre est donc aux mains des combattants du M23, indique ce jeudi soir une source militaire congolaise. Une situation qui inquiète les organisations humanitaires, notamment Médecins Sans Frontières, qui a une base dans la ville. Marco Doneda est le chef adjoint de la mission de MSF.
Des explosions massives ont également eu lieu à proximité de l'hôpital général de la ville de Walikale. Les équipes MSF s'inquiètent d'un potentiel afflux de blessés dans les prochaines heures et jours.
Avant même l'arrivée des combattants du M23 dans l'agglomération de Walikale, la population paniquée a commencé à fuir de la ville, comme l'explique cet habitant.
Cela a plongé justement la population dans la peur, dans la panique et aussi un déplacement massif de la population. D'autres dans des hôpitaux et d'autres dans des églises. Et d'autres dans des forêts ou dans des campagnes pour s'abriter. Tout le monde reste encore en train d'observer. Beaucoup de peurs, de paniques règnent au sein de la population.
Selon des témoins joints par RFI, c'est vers la ville de Moubi, à 30 km à l'ouest de l'agglomération de Walikale, sur la Nationale 3, que la population a fui et qu'une partie des militaires de l'armée congolaise basée dans la zone s'est repliée.
Direction le Rwanda, où le général et chef d'état-major ougandais Muhoozi Kainerugaba, également fils du président Yoweri Museveni, est arrivé ce jeudi après-midi à Kigali. Le patron de l'armée de Kampala était accueilli par son homologue rwandais, le général Mubarak Muganga. Il doit rencontrer au cours de sa visite plusieurs personnalités de l'appareil militaire rwandais. RFI, 22h03 à Washington. Donald Trump veut enterrer le département de l'éducation. Il a signé un décret pour le démanteler. C'était une promesse de campagne du président américain qui dit vouloir redonner tout le pouvoir en matière d'éducation aux États. Pour, selon lui, renforcer le niveau national de l'éducation. Même si la décision de supprimer totalement le département revient au Congrès, Donald Trump veut tout faire pour mettre fin aux activités du ministère.
Aujourd'hui, nous concrétisons une décision historique qui était attendue depuis 45 ans. Et cela semble bizarre comme ça. Le département de l'éducation sera éliminé. Mais tout le monde sait que c'est une bonne idée. Les États qui y travaillent bien auront une éducation qui pourra rivaliser avec celle de la Norvège, de la Suède et de tous ces pays qui sont au top du classement dans ce domaine. Je suis persuadé que ces États feront du très bon boulot, un travail phénoménal.
Après avoir été bloqués au Mexique, plus de 300 migrants vénézuéliens sont arrivés jeudi à Caracas. Ils ont été accueillis par le ministre vénézuélien de l'Intérieur, Diosdado Cabello. De son côté, Washington a demandé au président vénézuélien Nicolas Maduro la reprise des vols de rapatriement de migrants. Et ce, 5 jours après l'expulsion par les États-Unis vers une prison au Salvador de vénézuéliens accusés d'appartenir à des gangs criminels. 4h04 à Tel Aviv, le gouvernement israélien limoge Ronen Bar, chef du Shin Bet, l'agence de sécurité intérieure. Les relations entre Benjamin Netanyahou et Ronen Bar se sont envenimées depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023. Il quittera ses fonctions le 10 avril prochain. En attendant, ce jeudi signe la première riposte du Hamas après les attaques meurtrières de l'armée israélienne qui ont fait plus de 500 morts en 3 jours selon la défense civile palestinienne. Le Hamas a affirmé avoir tiré des roquettes sur Tel Aviv et appelle la Ligue arabe à faire pression pour mettre fin au génocide. De son côté, l'armée israélienne a interdit toute circulation sur le principal axe routier qui traverse l'enclave du nord au sud. Elle ajoute que son opération terrestre à Rafah doit s'étendre dans le centre et le nord de la bande de Gaza. En Turquie, la police a fait usage de balles en caoutchouc ce jeudi en direction d'un rassemblement devant l'hôtel de ville d'Istanbul. Plusieurs milliers de personnes ont demandé la libération d'Ekrem İmamoğlu. L'opposant numéro 1 de Recep Tayyip Erdogan a été arrêté ce mercredi. Il devait se présenter à l'élection présidentielle de 2028 ce dimanche sous la bannière du CHP. Deux Français, un emprisonné en Iran, l'autre assigné à résidence, ont été libérés et ont rejoint la France. L'un est Olivier Grondeau, détenu depuis 2 ans. Il avait été arrêté arbitrairement lors d'un voyage touristique dans le sud du pays, à Shiraz. L'homme de 34 ans a notamment été incarcéré dans la prison d'Evin à Téhéran, où les conditions de détention sont réputées atroces. L'autre Français est arrivé en France ce jeudi soir. Il souhaite garder son identité secrète. Les familles sont soulagées, tout comme le ministère des Affaires étrangères. On écoute le porte-parole Christophe Lemoine.
On se réjouit d'abord de la libération et du retour en France d'Olivier Grondeau et de cet autre ressortissant français. C'est vraiment une excellente nouvelle et c'est le fruit d'un travail qui a été long, patient, mais qui est aujourd'hui couronné de succès. Ce travail va continuer puisqu'il y a toujours 2 otages qui sont retenus en Iran, Cécile Kohler et Jacques Paris. Et nous continuerons à mettre la pression sur les autorités iraniennes. Donc nous sommes très heureux qu'ils aient pu rentrer. Je peux pas vous faire part de la négociation parce que ce sont des négociations qui sont très sensibles et que par ailleurs elles sont toujours en cours sur Cécile Kohler et Jacques Paris, mais il n'y a pas eu de contrepartie. En tout cas, encore une fois, c'est le travail d'un long travail de la diplomatie française pour obtenir la libération d'Olivier Grondeau.
Christophe Lemoine, interrogé par Théo Renaudon. Autre libération en Afghanistan, cette fois celle de George Klesman. L'ancien mécanicien de la compagnie aérienne américaine Delta Airlines était en prison depuis 2 ans. Une libération annoncée au terme d'une rare visite d'une délégation américaine à Kaboul. Le Sénat français a adopté ce jeudi une loi pour réhabiliter les femmes condamnées pour avoir avorté avant la dépénalisation de l'IVG en 1975. La France ne plie pas face au vent mauvais qui souffle sur la planète. Les mots de l'ancienne ministre des Droits des Femmes, Laurence Rossignol, qui a proposé la loi votée à l'unanimité. Cette adoption intervient 50 ans après le vote de la loi Veil dépénalisant l'interruption volontaire de grossesse. 8 collectifs de victimes de l'enseignement catholique auditionnés ce jeudi devant les députés français. Quelques semaines après les révélations de violences physiques et sexuelles de l'établissement de Bétaram près de Pau dans le sud-ouest de la France, ils ont répondu aux questions de la commission d'enquête parlementaire créée pour faire la lumière sur les défaillances des autorités. Amélie Beaucourt.
Est-ce que vous-même, comme victime, ou certains membres de vos collectifs, est-ce qu'ils ont cherché de l'aide à l'époque où ils étaient victimes?
Question du député Paul Vanier. Sa commission cherche à comprendre l'omerta autour de ces violences. Réponse de Bernard Lafitte, 77 ans, ancien élève d'un internat pour garçons.
Personne n'en parlait, y compris entre nous, on n'en parlait pas. Moi, personnellement, mes parents sont morts, ils ne l'ont jamais su. La première personne à qui j'en ai parlé, c'est mon épouse, il y a maintenant, on va dire, 3 semaines, après 50 ans de mariage.
Prisonniers de la loi du silence, les élèves avaient-ils d'autres moyens d'échapper aux sévices?
Est-ce qu'il y avait des enfants qui s'échappaient, qui fuyaient? Par qui étaient-ils rattrapés? Est-ce qu'il y a eu une réaction avec l'accumulation, par exemple, de fugues?
Cette fois, c'est Evelyne Lebris, 78 ans, qui prend la parole. Scolarisée dans un pensionnat pour filles tenu par des religieuses.
Pendant toute la nuit, avec les chiens bergers allemands, on était conviés à passer dans tous les bosquets, dans tous les jardins, pour savoir s'ils n'étaient pas montés en haut d'un arbre pour se cacher.
Une autre victime conclut, l'ultime violence, c'est d'entendre « on vous croit, mais vous n'aurez jamais droit à la justice car vous vous êtes manifesté trop tard ». Les associations demandent donc l'imprescriptibilité des violences commises sur les enfants.
La justice française ouvre également une nouvelle enquête pour identifier d'autres victimes du pédocriminel Joël de Scouarnec. L'ancien chirurgien est jugé à Vannes, dans l'ouest de la France, depuis le 24 février pour des viols et agressions sexuelles sur près de 300 patients. Son avocat indique qu'il a reconnu pour la première fois sa culpabilité pour l'intégralité des faits.